La morale est un sujet épineux. Si je l'ignorais étant petit, je l'ai découvert en arrivant à la fac. Je suis entré à l'université du Maine grâce à un échafaudage financier bancal fait de petites bourses, de prêts et de jobs d'été. Et pendant l'année scolaire, je travaillais au resto universitaire des West Commons. L'argent ne faisait jamais long feu. Ma mère, qui nous élevait seule, était gouvernante dans une institution psychiatrique nommée Pineland Training Center. Elle m'envoyait $12 par semaine, ce qui m'aidait un peu. Après sa mort, j'ai appris par l'une de ses sœurs que pour pouvoir m'envoyer cet argent, elle avait renoncé à son rendez-vous mensuel chez l'esthéticienne et économisé sur les courses. Elle sautait aussi le repas de midi les mardis et jeudis. Quand j'ai trouvé à me loger hors du campus et loin du resto U des West Commons, il m'arrivait de compléter mon propre régime alimentaire en volant des steaks ou des paquets de hamburgers au supermarché du coin. Il fallait le faire le vendredi, quand le magasin grouillait de monde. J'ai essayé de voler un poulet une fois, mais il était trop gros pour passer sous mon manteau. Le mot se répandit que je rédigeais des devoirs pour les étudiants en galère. J'appliquais un barème variable pour ce service. Si l'étudiant obtenait un A, mon tarif était de $20. Je recevais $10 pour un B. Un C était un loupé, donc personne ne payait rien. Pour un D ou un F, je promettais à mon client de lui donner $20. Mais je faisais en sorte de ne jamais devoir payer quoi que ce soit, car je n'en avais pas les moyens. J'étais un petit malin. Ça m'embarrasse de dire ça, mais c'est la vérité. Je ne m'engageais que si l'étudiant pouvait me fournir au moins un devoir écrit de sa main pour que je puisse copier son style. Je n'ai pas eu à le faire trop souvent, Dieu merci. Mais quand je devais le faire, quand j'étais fauché et ne pouvais tout simplement pas me passer d'un Burger Fried du Bear's Den, je le faisais. Puis, en troisième année, j'ai découvert que j'avais un groupe sanguin plutôt rare. A négatif, environ 6% de la population. Il y avait une clinique à Bangor qui achetait $25 le demi-litre de A négatif. Excellente affaire selon moi. À peu près tous les deux mois, je prenais la route 2 depuis Arona à bord de mon vieux break défoncé, ou en stop quand il était en rade, ce qui arrivait fréquemment, et je retroussais ma manche. Il y avait bien moins de paperasse à remplir en ces années pré-sida, et quand la poche de sang était pleine, on te donnait le choix entre un petit verre de jus d'orange ou un petit shot de whisky. Étant déjà un alcoolique en formation à l'époque, j'optais toujours pour le whisky. En rentrant à la fac, après l'un de ces dons de sang, il m'est venu à l'esprit que si se prostituer c'est vendre son corps pour de l'argent, alors j'étais une pute. Écrire des dissertations de littérature et des devoirs de sociaux pour les autres, c'était aussi se prostituer. J'avais reçu une éducation méthodiste classique, on m'avait appris ce qu'était le bien et le mal, mais voilà, j'étais devenu une pute. Sauf que je vendais mon sang et mes compétences en écriture plutôt que mon cul. Cette prise de conscience souleva en moi des questions d'ordre moral qui continuent de m'interroger aujourd'hui. La morale est un concept élastique, n'est-ce pas? Incroyablement étirable. Mais si on tire un peu trop sur quelque chose, ça finit toujours par craquer. Maintenant, je donne mon sang au lieu de le vendre, mais ce qui m'est venu à l'esprit à l'époque et me semble toujours vrai aujourd'hui, c'est que dans certaines circonstances, n'importe qui pourrait vendre n'importe quoi, et le regretter toute sa vie. Morale 1. Chad sut qu'il y avait un problème dès qu'il passa la porte. Nora était déjà rentrée. Elle travaillait de 11h à 17h, 6 jours sur 7. En général, lui-même rentrait de l'école à 16h et se mettait en cuisine à 18h quand elle rentrait. Elle était assise sur l'escalier de secours, là où il sortait pour fumer, et elle avait des papiers entre les mains. Il jeta un coup d'œil au réfrigérateur et vit que la copie du mail affichée là depuis près de 4 mois n'était plus sous l'aimant. « Hé, coucou, » dit-elle, « tu viens ?» Elle marqua une pause. « Amène tes clopes si tu veux. » Chad avait réduit sa consommation à un paquet par semaine, mais Nora n'approuvait pas pour autant cette habitude. Question de santé bien sûr, mais surtout de coût. Chaque cigarette, c'était 40 centimes qui partaient en fumée. Il n'aimait pas fumer devant elle, même dehors, mais il sortit son paquet du tiroir sous l'égouttoir à vaisselle et le mit dans sa poche. Quelque chose dans le visage grave de Nora lui disait qu'il pourrait en avoir besoin. Il sortit par la fenêtre et s'assit à côté d'elle. Elle s'était changée, portait un jean et l'un de ses vieux chemisiers, donc elle était rentrée depuis un moment. De plus en plus bizarre. Ils contemplèrent un instant leur petit bout de ville sans parler. Il l'embrassa. Et elle sourit d'un air absent. Elle avait le mail de l'agent sur les genoux, et aussi le dossier marqué « Le rouge et le noir » en grosses lettres capitales. Sa petite blague à lui, mais pas si drôle que ça. Ce dossier contenait toutes leurs paperasses financières, relevés de banque et de cartes de crédit, factures, primes d'assurance, et on pouvait dire qu'ils étaient dans le rouge, voire dans le noir. Ça semblait être à la mode en Amérique ces temps-ci. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. 2 ans auparavant, il parlait d'avoir un enfant. Plus aujourd'hui. Ce dont il parlait aujourd'hui, c'était de sortir la tête de l'eau et au mieux de quitter la ville sans une tripotée de créanciers aux trousses. Déménager dans le nord, en Nouvelle-Angleterre. Mais pas tout de suite. Ici, au moins, ils avaient du travail. Ça s'est bien passé à l'école? Ouais, impec. En fait, ce boulot était une aubaine. Mais quand Anita Bellemen rentrerait de son congé maternité, comment savoir ce qu'il trouverait? Probablement pas un autre poste à l'école primaire 321. Il était bien positionné sur la liste des remplaçants, mais ça ne lui servirait à rien si l'équipe pédagogique était au complet. « T'es rentré tôt, dit-il. Me dis pas que Winnie est mort. » Elle parut surprise, puis sourit à nouveau. Mais ils étaient ensemble depuis 10 ans, mariés depuis 6, et Chad avait déjà vu ce sourire. Quelque chose n'allait pas. « Nora ?» Il m'a laissé partir plus tôt, pour réfléchir. Il faut que je réfléchisse bien, je... » Elle secoua la tête, il la prit par l'épaule et la tourna vers lui. « Tu quoi? Tout va bien avec Winnie ?»« C'est une bonne question. Vas-y, je t'autorise à t'en griller une. Dis-moi ce qui se passe. » Elle avait été licenciée du Congress Memorial Hospital 2 ans auparavant, suite à un remaniement. Heureusement pour l'entreprise Chad et Nora, elle était retombée sur ses pieds. Dégoter ce boulot d'infirmière à domicile avait été un sacré coup de bol. Un seul patient, un révérend à la retraite, se remettant d'une attaque cérébrale, 36 heures par semaine, salaire très correct. Elle gagnait plus que lui, et pas qu'un peu. Avec leurs 2 salaires, ils avaient presque assez pour vivre, du moins jusqu'à ce qu'Anita Bellemen revienne. Parlons d'abord de ça. Elle souleva le mail de l'agent. « T'es sûr de toi ?»« Quoi ? Que je peux le faire ?» Oui, quasiment certain. Enfin, si j'avais le temps. Quant au reste, il haussa les épaules. C'est écrit là-dedans, noir sur blanc. Aucune garantie. Avec le gel des embauches actuellement en vigueur dans les écoles publiques de la ville, un poste de remplaçant était ce que Chad pouvait espérer de mieux. Il était sur toutes les listes d'attente, mais aucun poste d'enseignant de cours moyen à temps plein n'était en vue dans son avenir proche. Et même si une telle opportunité se présentait, le salaire ne serait pas beaucoup plus intéressant, plus régulier, oui. En tant que remplaçant, il passait parfois des semaines sur le banc de touche. Il y a 2 ans, il était resté 3 mois sans remplacement, et ils avaient failli perdre l'appartement. C'était là que les ennuis avec les cartes de crédit avaient commencé. Par désespoir, et aussi par besoin de combler les heures pendant que Nora travaillait chez le révérend Winston, Chad avait commencé à écrire un livre qu'il avait intitulé « Vivre parmi les animaux ». La vie d'un enseignant remplaçant dans 4 écoles publiques. Les mots ne lui venaient pas facilement, et certains jours, ils ne venaient carrément pas. Mais lorsqu'il avait été appelé pour un remplacement en classe de cours élémentaire première année à Saint Xavier, M. Cardelli avait eu un accident de voiture et s'était cassé la jambe, il avait déjà écrit 3 chapitres. Nora avait accepté de les lire avec un sourire crispé. Aucune femme n'a envie de dire à l'homme qui partage sa vie qu'il a perdu son temps. Elle n'avait pas eu à le faire. Les anecdotes qu'il racontait de sa vie d'enseignant remplaçant étaient jolies, drôles et souvent touchantes, bien plus intéressantes que tout ce qu'elle avait pu entendre à l'heure du dîner ou le soir au lit. La plupart des agents littéraires n'avaient pas répondu à ses courriers. Certains avaient eu la courtoisie de lui glisser un mot. « Désolé, mon agenda est plein. » Il en avait finalement trouvé un qui avait au moins accepté de lire les 80 pages qu'il avait réussi à arracher à son vieux Dell foireux. Le nom de l'agent, Edward Ringling, faisait un peu cirque. Et s'il n'avait pas tari d'éloges sur le travail de Chad, il n'avait pas été très généreux en promesses. « Je pourrais peut-être vous trouver un contrat sur la base de ces quelques pages et une ébauche du reste », avait écrit Ringling. « Mais ça risque d'être un tout petit contrat, sans doute bien moins intéressant que ce que vous gagnez actuellement en tant qu'enseignant, et vous risqueriez de vous retrouver sur la paille. C'est dément, je sais, mais c'est le marché d'aujourd'hui. » « Ce que je vous suggère, c'est d'écrire 7 ou 8 chapitres supplémentaires, voire même tout le livre. Alors je pourrais peut-être le mettre aux enchères et vous trouver un accord bien plus intéressant. » « C'était logique, supposait Chad. si tu contemplais le monde littéraire du haut d'un bureau confortable de Manhattan. Moins quand tu jouais à la marelle entre les différents arrondissements, enseignant une semaine ici et trois jours là, en tâchant de garder de l'avance sur les factures. La lettre de Ringling était arrivée en mai. On était maintenant en septembre, et même si Chad avait donné pas mal de cours particuliers cet été, Dieu bénisse les imbéciles, se disait-il parfois, il n'avait pas ajouté une seule page à son manuscrit. Ce n'était pas de la paresse. Enseigner, même seulement en tant que remplaçant, c'était comme d'avoir des câbles de démarrage branchés sur une partie vitale de ton cerveau. C'était bien que les enfants puissent en retirer de l'énergie, mais à la fin de la journée, il ne t'en restait plus que très peu. Souvent le soir, l'activité la plus créative dont il se trouvait capable, c'était la lecture du dernier Linwood Barclay. Ça pourrait changer s'il se retrouvait à nouveau sans travail pendant 2 ou 3 mois, sauf que vivre à deux sur le salaire de sa femme achèverait de les ruiner. Et l'angoisse, ça n'aidait pas en matière de création littéraire. « Ça te prendrait combien de temps de le terminer ?» demanda Nora. « Si t'écrivais à plein temps. » Il sortit son paquet de cigarettes et en alluma une. Il ressentait une forte envie de se montrer exagérément optimiste, mais la surmonta. Il n'avait pas la moindre idée de la mouche qu'il avait piquée, mais Nora méritait la vérité. « Au moins 8 mois, plus probablement 1 an. » « Et combien d'argent tu penses que Ringling pourrait récolter si les gens se déplaçaient pour sa vente aux enchères ?» Ringling n'avait pas mentionné de chiffres, mais Chad avait fait ses devoirs du soir. « J'imagine que l'avance pourrait tourner autour de 100 000. » Un nouveau départ dans le Vermont, c'était ça leur projet, ce dont ils parlaient au lit. Une petite ville, peut-être, dans le Northeast Kingdom. Nora pourrait trouver un poste à l'hôpital le plus proche ou chez un autre particulier. Puis pourrait décrocher un temps plein, ou bien écrire un autre livre. Nora, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de te le dire, dit-elle, mais je vais le faire. Dingue ou pas, je vais te le dire. Parce que le chiffre que Winnie m'a donné dépasse les 100 000. Juste une chose, je ne démissionnerai pas. Il a dit que je pouvais garder mon boulot, peu importe ce qu'on décidait, et on a besoin de ce boulot. Il attrapa le cendrier en aluminium qu'il gardait sous le rebord de la fenêtre et écrasa son mégot. Puis il lui prit la main. « Dis-moi. » Il écouta avec stupéfaction, mais sans incrédulité. Il aurait aimé pouvoir être incrédule, mais non. Si on lui avait posé la question avant ce jour-là, Nora aurait dit qu'elle savait peu de choses sur le révérend George Winston et qu'il ne savait à peu près rien d'elle. À la lumière de sa proposition, elle se rendit compte qu'elle lui en avait en fait dit beaucoup, sur leur situation financière pour commencer, et sur la possibilité qu'offrait le livre de Chad de stopper cette course folle. Et elle-même, qu'avait-elle appris sur Winnie, au juste? Que c'était un célibataire endurci, que 3 ans après avoir pris sa retraite de la seconde église presbytérienne de Park Slope, où il était toujours révérend émérite, il avait eu une attaque cérébrale qui l'avait laissé en partie paralysé du côté droit. C'était là qu'elle était entrée dans sa vie. Il pouvait maintenant marcher jusqu'à la salle de bain et les bonjours jusqu'à son fauteuil à bascule sur la véranda, grâce à un appareil orthopédique en plastique qui empêchait son mauvais genou de flancher. Et il reparlait de manière intelligible, même s'il souffrait de ce que Nora appelait « la langue endormie ». Nora avait de l'expérience avec les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, c'est ce qui avait été décisif lors de l'entretien d'embauche, et elle appréciait à leur juste valeur les progrès qu'il avait faits en si peu de temps. Avant qu'il lui fasse cette proposition scandaleuse, il n'était jamais venu à l'esprit de Nora qu'il puisse être fortuné, même si la maison dans laquelle il vivait aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. La seule supposition qu'elle avait faite, c'était que la maison devait être un don de la paroisse et qu'il devait en être plus ou moins de même des services qu'elle lui rendait. Au cours du siècle dernier, son travail avait reçu la dénomination d'aide à la personne. En plus des soins infirmiers tels que lui faire prendre ses cachets et surveiller sa tension, elle assurait aussi la fonction de kinésithérapeute. Elle était également orthophoniste, masseuse et occasionnellement, quand il avait des lettres à écrire, secrétaire. Elle lui faisait ses courses et parfois la lecture. Elle ne rechignait pas non plus face à un peu de ménage les jours où Madame Granger ne venait pas. Ces jours-là, elle préparait des sandwichs ou de l'omelette pour le déjeuner, et elle supposait que c'était lors de ses repas qu'il lui avait soutiré les détails de sa propre vie, si discrètement et si nonchalamment que Nora ne s'en était jamais rendue compte. « La seule chose que je me rappelle lui avoir dite, confia-t-elle à Chad, et encore, c'est sûrement parce qu'il me l'a répété aujourd'hui, c'est qu'on ne vivait pas dans une pauvreté abjecte, ni même dans l'inconfort, mais que c'était la peur d'en arriver là qui me déprimait. Chad sourit et corrigea, qui nous déprime. Ce matin-là, Winnie avait refusé et la toilette aux gants et le massage. À la place, il avait demandé qu'elle l'équipe de son appareil orthopédique et l'aide à marcher jusqu'à son bureau. Un déplacement relativement long pour lui, certainement plus long que de rejoindre son fauteuil à bascule sur la véranda. Il y était parvenu, mais lorsqu'il s'était enfin laissé tomber dans le fauteuil derrière son bureau, il était écarlate et pantelant. Nora était allée lui chercher un verre de jus d'orange en prenant son temps pour le laisser retrouver son souffle. Quand elle revint, il vida la moitié du verre d'une traite. « Merci Nora. Je voudrais vous parler à présent. C'est très sérieux. » Il dut voir son inquiétude, car il sourit et la balaya d'un geste de la main. « Ça ne concerne pas votre emploi. Vous le garderez quoi qu'il arrive, si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, je veillerai à ce que vous repartiez avec la meilleure des lettres de recommandation. » Sympa de sa part, mais des boulots comme celui-là, ça ne courait pas les rues. « Winnie, vous me faites peur, là, » lui dit-elle. « Nora, que diriez-vous d'une prime de 200 000 $ ?» Elle le fixa stupidement du regard. De chaque côté, de hautes étagères garnies de livres intelligents la toisaient sévèrement. Les bruits de la rue étaient assourdis. On aurait pu se croire dans un autre pays, un pays plus calme que Brooklyn. Si vous pensez qu'il s'agit de sexe, je vous rassure, il ne s'agit pas de ça. Du moins, je le crois. Si l'on creuse un peu et qu'on a lu Freud, je suppose qu'on pourrait dire que tout acte déviant a une origine sexuelle. Pour ma part, je ne sais pas. Je n'ai plus étudié Freud depuis le séminaire et encore, je n'ai fait que le survoler à l'époque. Freud me dérangeait. Son sentiment semblait être que toute suggestion de profondeur chez l'homme est une illusion. Il semblait dire « Ce que tu prends pour un puits artésien n'est en fait qu'une flaque. » Je ne suis pas d'accord. La nature humaine est sans fond, elle est aussi profonde et mystérieuse que l'Esprit de Dieu. Nora se leva. « Sauf votre respect, je ne suis pas sûr de croire en Dieu, et je ne suis pas sûr de vouloir entendre votre proposition. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez pas, et vous vous interrogerez toujours. » Elle resta debout à le regarder, ne sachant trop quoi faire ni quoi dire. Ce qu'elle pensait, c'était « Ce bureau a dû lui coûter des milliers de dollars. » C'était la première fois qu'elle avait réellement pensé à argent le concernant. « 200 000 $ en espèces, voilà mon offre. Assez pour régler toutes les factures impayées, assez pour permettre à votre mari de terminer son livre, assez peut-être pour commencer une nouvelle vie dans le Vermont, c'est bien ça ?»« Oui. » Et elle pensa, « Si tu te rappelles ça, c'est que t'écoutais bien plus attentivement que moi. » Pas besoin non plus d'en informer les impôts. Il avait un visage long et des cheveux blancs laineux. Elle avait toujours trouvé qu'il ressemblait à un mouton. L'argent liquide est pratique pour ça et n'éveille aucun soupçon s'il est injecté lentement dans les comptes. D'autre part, une fois que votre mari aura vendu les droits de son livre et que vous serez installé en Nouvelle-Angleterre, nous n'aurons plus jamais à nous revoir. Il s'interrompit. Quoique si vous décidiez de ne pas rester, « je doute que ma prochaine infirmière serait moitié aussi compétente que vous. S'il vous plaît, asseyez-vous, vous me donnez le torticolis. » Elle fit ce qu'il demandait. C'était la pensée des 200 000 $ cash qui l'incitait à rester. Elle pouvait réellement les voir. Des billets fourrés dans une enveloppe marron matelassée, ou peut-être qu'il en faudrait deux pour contenir autant d'argent. « Ça dépendrait sûrement du montant des billets, » pensa-t-elle. « Laissez-moi parler un instant, » dit-il. « Je n'ai pas été très bavard avec vous, n'est-ce pas ? J'ai surtout écouté. Maintenant, Nora, c'est à votre tour d'écouter. Voulez-vous ? » « J'imagine. » Elle était curieuse. Elle supposait que n'importe qui l'aurait été. « Qui voulez-vous que je tue ?» C'était une plaisanterie, mais à l'instant où les mots sortirent de sa bouche, elle redouta la réponse. Car ça ne résonnait pas comme une plaisanterie, pas plus que les yeux dans cette longue face de mouton ne ressemblaient à des yeux de mouton. À son soulagement, Winnie rigola, puis il dit « Pas de meurtre, ma chère, nous n'aurons pas besoin d'aller jusque-là. » Il parla donc, comme il n'avait jamais parlé, probablement à personne. « J'ai grandi dans un foyer aisé de Long Island. Mon père a fait fortune dans le marché boursier. J'ai reçu une éducation religieuse, et quand j'ai annoncé à mes parents que je me sentais appelé par le sacerdoce, Personne n'a fait des pieds et des mains pour que je succède à mon père. Au contraire, ils étaient ravis, surtout ma mère. La plupart des mères sont heureuses quand leur fils se découvre une vocation avec un grand V. Je suis entré au séminaire dans le nord de l'État de New York, ensuite de quoi j'ai été affecté, en tant que révérend adjoint, à une église dans l'Idaho. Je n'ai jamais manqué de rien. Les presbytériens ne font pas vœu de pauvreté, et mes parents ont toujours veillé à mon confort. Mon père a vécu 5 ans de plus que ma mère, et quand il est mort, j'ai hérité de beaucoup d'argent, principalement en obligations et solides actions. Depuis, j'ai converti un petit pourcentage de cet argent en liquide, un peu chaque année, pas une grosse tirelire, car je n'en ai jamais eu besoin, mais ce que j'appellerais une tirelire à souhait. Il se trouve dans un coffre-fort à Manhattan, et c'est cet argent-là que je vous propose, Nora. Le total est peut-être même plus proche de 240 000, mais nous n'allons pas chipoter pour quelques dollars de plus ou de moins, vous en conviendrez? J'ai traîné quelques années dans l'arrière-pays avant de revenir à Brooklyn et à la seconde église. Après y avoir passé 5 ans en tant qu'adjoint, je suis devenu révérend titulaire. J'ai officié en tant que tel, sans le moindre faux pas, jusqu'en 2006. J'ai mené la vie, et je dis cela sans fierté ni honte, d'un humble serviteur. J'ai consacré mon temps au sein de cette église à aider les plus démunis, que ce soit à l'étranger ou ici même dans cette communauté. C'est moi qui ai eu l'idée d'ouvrir un centre d'accueil pour les alcooliques anonymes, et nous avons aidé des centaines de toxicomanes et d'alcooliques. J'ai réconforté les souffrants et enterré les morts. Plus gaiement, j'ai célébré plus de 1 000 mariages. J'ai mis sur pied un fonds de bourse d'études qui a permis à beaucoup de jeunes garçons et filles d'intégrer des universités qu'ils n'auraient jamais pu se payer autrement. L'une de nos étudiantes boursières a remporté le National Book Award en 1999. Et mon unique regret est le suivant. Durant toutes ces années, je n'ai jamais commis un seul des péchés contre lesquels j'ai passé ma vie à mettre en garde mes fidèles. Je ne suis pas un homme concupiscent, et n'ayant jamais été marié, je n'ai jamais eu ne serait-ce que l'opportunité de commettre l'adultère. Je ne suis pas de nature gourmande, et bien que j'apprécie les bonnes choses, je n'ai jamais été avide ni cupide. Pourquoi le saurais-je, quand mon père m'a laissé une fortune de 15 millions de dollars? J'ai travaillé dur, gardé mon sang-froid, je n'envie personne, sauf peut-être Mère Teresa, et j'ai peu d'orgueil à l'égard de mes biens ou de ma situation. Je ne prétends pas être sans péché, loin de moi l'idée. Ceux qui peuvent affirmer, je suppose qu'il y en a peu, ne jamais avoir péché en parole ou en action, peuvent difficilement affirmer n'avoir jamais péché en pensée, n'est-ce pas? L'Église a veillé à tout. Nous offrons le paradis, puis faisons comprendre aux gens qu'ils n'ont aucune chance d'y accéder sans notre aide, car personne n'est sans péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Vous devez trouver que je parle comme un incroyant, mais élevé comme je l'ai été, l'incroyance est selon moi tout aussi impossible que la lévitation. Cependant, je comprends en quoi ce marché-là peut être une imposture, ainsi que les ruses psychologiques que les croyants mettent en place pour assurer la prospérité de leurs croyances. La mitre extravagante du pape ne lui a pas été conférée par Dieu, mais par des hommes et des femmes ayant payé la rançon d'un chantage théologique. Je vous vois vous agiter, je vais donc en venir au fait. Je veux commettre un péché d'importance majeure avant de mourir. Pas un péché en parole ou en pensée, mais en action. J'y pensais déjà, et de plus en plus, avant mon attaque, mais je prenais ça pour une folie passagère. À l'évidence, cela ne passera pas, car l'idée me hante plus que jamais depuis 3 ans. Mais quel grand péché, me suis-je demandé, un homme cloué à un fauteuil roulant peut-il commettre? Sûrement rien de bien méchant, du moins sans se faire prendre, et je préférerais ne pas me faire prendre. Des sujets aussi graves que le péché et le pardon doivent rester entre l'homme et Dieu. En vous écoutant parler du livre de votre mari et de votre situation financière, il m'est venu à l'esprit que je pourrais pécher par procuration. En réalité, je pourrais même doubler la valeur du péché en faisant de vous ma complice. La bouche sèche, Nora articula. Je crois aux mauvaises actions, Winnie, mais je ne crois pas au péché. Il sourit, d'un sourire bienveillant et déplaisant, des lèvres de mouton et des dents de loup. Je comprends, mais le péché croit en vous. Oui, c'est votre vision des choses, et après, c'est pervers. Le sourire de Winnie s'élargit. Exactement, c'est bien pour ça. Je veux savoir ce que c'est que de faire quelque chose d'entièrement contre ma nature, d'avoir à demander pardon pour l'action et plus que l'action. Savez-vous ce qui double un péché, Nora? Non, je ne vais pas à l'église. Ce qui double un péché, c'est de se dire « Je vais faire ça parce que je sais qu'ensuite je peux prier pour mon absolution. » Se dire qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Je veux savoir ce que ça fait d'aller aussi loin dans le péché. Je ne veux pas patauger dedans, je veux plonger au plus profond. Et m'entraîner avec vous. Elle avait dit ça avec une réelle indignation. Ah, mais vous ne croyez pas au péché, Nora. Vous venez de le dire. De votre point de vue, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous vous salissiez un peu. Et risquiez une arrestation, je suppose, même si le risque devrait être minime. Et pour tout cela, je suis prêt à vous payer 200 000 $. Plus de 200 000. Elle avait le visage et les mains engourdies, comme si elle revenait d'une longue promenade dans le froid. Elle ne le ferait pas, bien sûr. Ce qu'elle allait faire, c'était sortir de cette maison et prendre l'air. Elle ne démissionnerait pas, du moins pas tout de suite, parce qu'elle avait besoin de ce boulot. Mais elle irait prendre l'air, ça oui. Et s'il la virait pour avoir déserté son poste, qu'il le fasse. Mais d'abord, elle voulait entendre la suite. Elle ne s'avouait pas tentée, mais curieuse? Oui, ça, elle l'admettait. Qu'attendez-vous de moi? Chad avait allumé une autre cigarette. Elle agita les doigts. « Fais-moi tirer sur ta clope. »« Nori, t'as pas fumé depuis 5. Fais-moi tirer, je te dis. » Il lui passa la cigarette. Elle prit une longue bouffée, recracha la fumée en toussant. Puis, elle le lui dit. Ce soir-là, elle resta éveillée jusque tard dans la nuit, presque sûre que Chad dormait. Et pourquoi pas? Ils avaient pris leur décision. Elle dirait non à Winnie et ne reparlerait plus jamais de cette histoire. Décision prise, sommeil tranquille. Néanmoins, elle ne fut pas totalement surprise lorsqu'il se tourna vers elle et dit « J'arrête pas d'y penser. » C'était pareil pour elle. « Je pourrais le faire, tu sais, pour nous, si... » Ils étaient face à face maintenant, à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour sentir le goût de leur haleine. Il était 2 heures du matin. L'heure du complot, si tant est qu'il y en ait une, pensa Nora. Si j'avais pas le sentiment que ça souillerait nos vies, il y a des souillures indélébiles. Le problème se pose pas, Nora. Notre décision est prise. Tu fais comme Sarah Palin. Tu lui dis merci, mais non merci pour ce pont qui ne mène nulle part. Je trouverai un moyen de finir mon bouquin sans ces idées de subventions tordues. Quand? Pendant tes prochains congés sans solde? Je crois pas, non. C'est décidé, c'est un vieux taré, point final. Il roula sur le côté. Le silence revint. À l'étage au-dessus, Madame Reston, dont la photo aurait dû illustrer le mot « insomnie » dans le dictionnaire, allait et venait. Quelque part, peut-être dans les profondeurs les plus obscures de Gowanus, une sirène hurlait. 15 minutes s'écoulèrent avant que Chad ne s'adresse à la table de nuit et au réveil électrique qui affichait maintenant 2h17. Et puis, faudrait pouvoir lui faire confiance pour l'argent. Et on peut pas faire confiance à un homme dont la dernière ambition dans la vie, c'est de commettre un péché. « Mais je lui fais confiance, dit-elle. C'est à moi que je fais pas confiance. Allez, dors maintenant. Le sujet est clos. »« Ok, dit-il. Pigé. » Le réveil indiquait 2h26 quand elle dit « C'est faisable. Ça, j'en suis sûr. Je pourrais me teindre les cheveux, mettre un chapeau, des lunettes noires, bien sûr. Ça devrait être un jour où il fait soleil, du coup. Et il devrait y avoir une issue de secours. T'envisages vraiment ?»« J'en sais rien. 200 000 $. Faudrait que je bosse au moins 3 ans pour faire autant d'argent. Et il restera plus rien quand l'État et les banques auront pris leur part. On sait comment ça marche. » Elle resta silencieuse un moment, le regard fixé au plafond au-dessus duquel Madame Reston parcourait ses lents kilomètres. « Et l'assurance ? » éclata-t-elle. « Tu sais ce qu'on a comme assurance ? Rien. » On a une assurance. Ok, presque rien alors. Et si tu te fais renverser par une voiture? Et si on me dépiste un kyste à l'ovaire? Notre couverture sociale est très bien. C'est ce que tout le monde dit. Mais ce que tout le monde sait, c'est qu'on se fait toujours arnaquer au drive-in. Avec ça, on serait tranquille. C'est à ça que je pense, moi. On serait tranquille. Oui, mais à côté de 200 000 $, ce que je peux espérer toucher pour un livre paraît bien maigre, tu trouves pas? Pourquoi me fatiguer? Parce que ça serait le coup d'une fois, et qu'après ton livre serait propre. Propre? Tu crois vraiment que ça rendrait mon livre propre ?» Il se retourna pour lui faire face. Il avait une érection. Peut-être qu'il y avait bien une histoire de sexe là-dessous, du moins de leur côté à eux du marché. « Tu crois que je retrouverai un jour un boulot comme celui que j'ai avec Winnie ?» Elle était en colère, sauf qu'elle n'aurait su dire si c'était contre elle ou contre lui, et elle s'en fichait. « J'aurai 36 ans en décembre. Tu m'emmèneras au resto pour mon anniversaire, et une semaine plus tard, c'est là que je recevrai mon vrai cadeau, un rappel pour la dernière échéance du crédit auto. » « T'es en train de me tenir responsable de... »« Non, je tiens même pas responsable le système qui nous fait galérer comme ça, nous et les autres comme nous. C'est contre-productif de rejeter la faute sur les autres. Et j'ai dit la vérité à Winnie. Je crois pas au péché. Et je veux pas non plus aller en prison. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et puis, je veux faire de mal à personne, surtout pas à... »« Tu ne feras de mal à personne. » Il voulut se retourner, mais elle le saisit aux épaules. « Si on le faisait, si je le faisais, il ne faudra plus jamais en reparler, pas une seule fois. » « Non. » Elle se rapprocha de lui. Dans un couple, il faut plus qu'une poignée de main pour conclure un marché. Ils le savaient tous les deux. Le réveil indiquait 2h58, et il était en train de sombrer dans le sommeil quand elle demanda. « Tu connais quelqu'un qui a une caméra ? Parce qu'il veut... » « Oui, dit-il. Charlie Green. » Après ça, silence. À l'exception de Madame Reston qui faisait de lents allers-retours au-dessus d'eux. Nora eut une vision, presque un rêve, de Madame Reston avec un podomètre accroché à la ceinture de son pantalon de pyjama. Madame Reston parcourant patiemment tous ces kilomètres la séparant de l'aube. Le lendemain, dans le bureau de Winnie, « Alors ?» lui demanda-t-il. « Nora ?» dont la mère n'avait jamais été pratiquante, avait participé au camp biblique tous les étés, et ça lui avait plu. Il y avait des jeux, des chants, des fresques en feutrine pour raconter des histoires. Une de ces histoires lui revenait maintenant à l'esprit, elle n'y avait pas repensé depuis des années. « Je n'aurais pas vraiment à blesser le... vous savez, la personne, pour avoir l'argent, » demanda-t-elle. « Je veux être clair là-dessus. » « Non, mais je veux voir du sang couler. » « Je veux être clair là-dessus. Je veux que vous vous serviez de votre poing, mais une lèvre entaillée ou un nez qui saigne sera amplement suffisant. » Dans l'histoire du camp biblique, l'animateur avait placé une montagne sur la fresque en feutrine, puis Jésus et un autre type avec des cornes. L'animateur avait expliqué que le diable avait emmené Jésus en haut de la montagne et lui avait montré toutes les villes de la terre. « Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ces villes, » avait dit le diable. « Tous les trésors, tout ce que tu as à faire, c'est de chuter et de me vénérer. » Et Jésus était un type tenace. Il avait dit « Arrière de moi, Satan !» « Alors ?» lui demanda-t-il à nouveau. « Le péché, médita-t-elle tout haut, c'est ce que vous avez à l'esprit. Le péché comme fin en soi, délibérément planifié et exécuté. Trouvez-vous l'idée excitante ?» « Non, » répondit-elle en levant les yeux vers les sévères étagères de livres. Winnie laissa un peu de temps s'écouler avant de lui demander pour la troisième fois. « Alors ?»« Si je me faisais prendre, est-ce que je toucherais quand même l'argent ?»« Si vous remplissez votre part du contrat et que vous ne me mettez pas en cause, cela va de soi. Je respecterai bien évidemment la mienne. Et même si vous vous faisiez prendre, le pire dont vous pourriez écoper, c'est d'un sursis. » Et d'une expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, dit-elle, ce dont j'ai probablement déjà besoin. Winnie observa. « Si vous continuez à vivre comme ça, ma chère, c'est d'un conseiller conjugal que vous allez avoir besoin, dans le meilleur des cas. Du temps où j'étais révérend, j'ai conseillé beaucoup de couples, et même si les soucis d'argent n'étaient pas toujours la cause profonde de leurs problèmes, ils l'étaient dans bon nombre de cas. Et alors, il n'y avait plus que ça. » « Merci de me faire profiter de votre expérience, Winnie. » Il ne répondit rien. « Vous êtes cinglé, vous savez. » Il ne dit toujours rien. Elle regarda encore les livres. La plupart d'entre eux parlaient de religion. Enfin, elle ramena son regard sur lui. « Si j'accepte et que vous me baisez, je vous le ferai regretter. » Il ne parut pas gêné par le choix de ces mots. « J'honorerai mon engagement, soyez-en sûr. » « Vous reparlez presque parfaitement, sans même un zozotement, sauf quand vous êtes fatigué. » Il haussa les épaules. « Votre oreille s'y est habituée. C'est comme apprendre une nouvelle langue, je suppose. » Les yeux de Nora retournèrent vers les livres. L'un d'eux s'intitulait « Le problème du bien et du mal ». Un autre, « Le fondement de la morale ». C'était un livre épais. Le tic-tac régulier d'une vieille pendule régulateur leur parvenait depuis le vestibule. Le révérend finit par se répéter une nouvelle fois. « Alors ?»« Le seul fait de me faire cette proposition n'est-il pas un péché suffisant pour vous ?»« Vous nous tentez tous les deux et nous envisageons tous les deux de succomber à la tentation, n'est-ce pas suffisant ?»« C'est péché par parole et en pensée seulement. Cela ne satisfera pas ma curiosité. » La régulateur tic-taquait. Sans le regarder, elle dit « Si vous dites encore une fois « alors », je m'en vais d'ici. » Il ne dit ni « alors » ni rien d'autre. Nora regarda ses mains qu'elle tordait sur ses genoux. Le plus atterrant dans tout ça, elle continuait à être curieuse. Pas de savoir ce que lui voulait, ça c'était réglé, mais ce qu'elle voulait. Enfin, elle le regarda et lui donna sa réponse. « Parfait, dit-il. » La décision prise, ni l'un ni l'autre ne tenait à ce que l'action elle-même plane trop longtemps au-dessus de leur tête. L'ombre qu'elle projetait était trop grande. Ils choisirent Forest Park, dans le Queens. Chad emprunta la caméra de Charlie Green et apprit à s'en servir. Ils se rendirent deux fois au parc, des jours de pluie quand le parc était quasi désert, et Chad filma la zone qu'ils avaient choisie. Ils firent beaucoup l'amour durant cette période. Ils étaient nerveux, maladroits, comme des ados sur la banquette arrière d'une voiture, mais c'était souvent bon, torride en tout cas. Nora vit ses autres appétits vitaux diminuer. Dans les 10 jours entre son accord et le matin où elle exécuta sa part du contrat, elle perdit 4 kilos. Chad disait qu'elle recommençait à ressembler à une petite étudiante. Début octobre, par un jour ensoleillé, Chad gara leur vieille Ford sur Jewel Avenue. Assise à côté de lui, vêtue d'une jupe longue et d'une vilaine tunique marron, ses cheveux teints en rouge lâchés sur les épaules, Nora n'avait plus rien de Nora. Elle portait des lunettes de soleil et une casquette de baseball des Mets de New York. Elle avait l'air plutôt calme, mais quand il tendit la main pour la toucher, elle eut un mouvement de recul. « Non, laisse, t'as de l'argent pour le taxi ?»« Oui. Et un sac pour ranger la caméra ?»« Oui, évidemment. Alors donne-moi les clés de la voiture. On se voit à la maison. »« T'es sûr que tu pourras conduire ? Parce que, après un truc comme ça, ça ira. Donne-moi les clés. Attends-la 15 minutes. S'il y a un truc qui cloche, si j'ai ne serait-ce que l'impression qu'un truc peut clocher, je reviens. Si je reviens pas, tu vas à l'endroit qu'on a choisi. Tu t'en souviens ? Bien sûr que je m'en souviens. » Elle sourit, montra du moins ses dents et ses fossettes. « À la bonne heure, dit-elle. » Et elle s'en alla. Ce furent 15 minutes affreusement longues. Mais Chad attendit patiemment que chacune d'elles passe. Des jeunes, tous coiffés de casques intégraux, passaient en pétaradant sur leur cyclo. Des femmes flânaient par deux, souvent avec des sacs de shopping à la main. Il vit une vieille dame traverser laborieusement l'avenue, et l'espace d'un instant surréel, il crut que c'était Madame Reston, mais quand elle passa à sa hauteur, il vit que non. Cette femme-là était beaucoup plus âgée que Madame Reston. Quand les 15 minutes furent presque écoulées, il lui vint à l'esprit, de manière raisonnable et rationnelle, qu'il pouvait mettre un terme à tout ça, en démarrant avec son double des clés et en partant. Dans le parc, Nora le chercherait du regard et ne le verrait pas. C'est elle qui prendrait un taxi pour rentrer à Brooklyn. Et quand elle arriverait, elle le remercierait. Elle lui dirait « Tu m'as sauvé de moi-même ». Après ça, il prendrait un mois de congé. Pas de remplacement. Il mettrait tout en œuvre pour terminer le livre. Il jetterait son bonnet par-dessus les moulins, comme on dit. Au lieu de ça, il descendit de voiture et marcha en direction du parc avec la caméra de Charlie Green à la main. Le sac en papier dans lequel il la rangerait après était fourré dans la poche de son anorak. Il vérifia 3 fois que le voyant vert de l'appareil était bien allumé. Ce serait terrible d'avoir fait tout ça pour s'apercevoir ensuite qu'il ne l'avait jamais mis en marche, ou qu'il avait laissé le capuchon sur l'objectif. Ça aussi, il le vérifia. Nora était assise sur un banc du parc. Quand elle le vit, elle ramena ses cheveux derrière son oreille gauche. C'était le signal. Ils y étaient. Derrière elle, il y avait une aire de jeu pour enfants. Des balançoires, des tourniquets, des tape-culs, des chevaux à ressort, ce genre de choses. À cette heure-ci de la journée, il n'y avait que quelques enfants en train de jouer. Les mamans, petit groupe à l'autre bout de l'aire de jeu, bavardaient entre elles et riaient, ne prêtant pas tellement attention aux enfants. Nora se leva du banc. « 200 000 $, pensa Chad. Et il porta la caméra à son œil. Maintenant qu'ils y étaient, il se sentait calme. Il filma comme un pro. 2. De retour à leur immeuble, Chad monta les marches 4 à 4. Il était sûr qu'elle n'y serait pas. Il l'avait vue détaler à toute vitesse, et les mamans l'avaient à peine regardée. Elles fonçaient toutes vers le petit garçon que Nora avait choisi, un garçon de peut-être 4 ans. Mais Chad était quand même persuadé qu'elle ne serait pas là et qu'il recevrait un appel de la police lui disant que sa femme était au poste où elle avait craqué et tout raconté, y compris son rôle à lui. Pire, le rôle de Winnie, ce qui impliquerait qu'ils avaient fait tout ça pour rien. Sa main tremblait tellement qu'il n'arrivait pas à introduire la clé dans la serrure. Elle ricochait frénétiquement contre la plaque en métal sans jamais entrer. Il était en train de poser par terre le sac en papier, à présent salement froissé, qui contenait la caméra, afin de pouvoir s'aider de sa main gauche quand la porte s'ouvrit. Nora était maintenant en short, en jean et débardeur, les vêtements qu'elle portait sous sa jupe longue et sa tunique, le plan étant qu'elle se changerait dans la voiture avant de filer. Elle avait dit qu'elle pouvait le faire en un clin d'œil, et apparemment c'était vrai. Il se jeta contre elle et l'étreignit si fort qu'il entendit le choc sourd de leur corps. Pas exactement romantique comme étreinte. Nora le laissa faire un moment puis dit « Entre, reste pas dans le couloir. » Dès qu'ils furent à l'abri à l'intérieur, elle demanda « Tu l'as eu ? Dis-moi que oui. Ça fait une demi-heure que je suis là à tourner en rond comme Madame Reston au milieu de la nuit. Enfin, Madame Reston, si elle était sous speed, à me demander… Moi aussi j'étais inquiet. » Il ramena ses cheveux en arrière, dégageant son front chaud et fiévreux. « Nori, j'étais mort de trouille !» Elle lui arracha le sac en papier des mains, regarda à l'intérieur, puis le fusilla du regard. Elle s'était débarrassée de ses lunettes de soleil. Ses yeux bleus l'incendiaient. « Dis-moi que tu l'as eu !»« Ouais, enfin, je crois. Normalement, oui. J'ai pas encore vérifié. » Le regard de Nora flamba plus fort. Il pensa « Fais gaffe, Nor, tes yeux vont prendre feu si tu continues. » T'as intérêt, t'as intérêt. Quand j'étais pas en train de tourner en rond, j'étais sur les chiottes. J'arrête pas d'avoir des crampes. » Elle alla à la fenêtre et regarda dehors. Il la rejoignit, craignant qu'elle ne sache quelque chose qu'il ignorait. Mais il ne vit que le va-et-vient habituel des piétons. Elle se tourna vers lui et la grippa par les bras. Les paumes de ses mains étaient glaciales. « Il va bien ? Le gamin, t'as vu si ça allait ?»« Il va bien, » dit Chad. « Tu me mens !» Elle lui cria au visage. « T'as pas intérêt à me mentir. Est-ce qu'il allait bien ?»« Oui, il s'est même relevé avant que toutes les mamans arrivent. Il braillait comme un fou, mais j'ai connu pire à son âge quand je me suis pris un coup de balançoire dans la nuque. J'ai dû aller aux urgences et on m'a fait 5… Je l'ai frappé beaucoup plus fort que je comptais le faire. J'avais trop peur que si je retenais le coup, si Winnie voyait que je m'étais retenu, il refuse de payer. Et puis, l'adrénaline, mon Dieu !» C'est un miracle que j'ai pas arraché la tête à ce pauvre gamin. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Mais elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas l'air de le regretter. Elle avait l'air furieuse. Pourquoi tu m'as laissé faire ? J'ai jamais… T'es sûr qu'il va bien ? Tu l'as vraiment vu se relever ? Parce que je l'ai frappé beaucoup plus fort que… Elle s'écarta de lui, alla jusqu'au mur et s'y cogna le front, puis se retourna. Je suis entrée dans une aire de jeu réservée aux enfants… Et j'ai foutu mon poing dans la figure d'un gamin de 4 ans, pour de l'argent. Il eut un éclair de génie. Je crois que c'est sur la vidéo. Le gamin qui se relève, je veux dire. Tu vas le voir toi-même. Elle se rua vers lui. Mais là, je veux voir. Chad brancha à la télé le câble que Charlie lui avait donné. Puis après quelques tentatives maladroites, il réussit à lancer la cassette. Il avait effectivement filmé l'enfant qui se relevait, juste avant d'éteindre la caméra et de s'éloigner. L'enfant avait l'air désorienté, et bien sûr, il pleurait. Mais sinon, ça avait l'air d'aller. Ses lèvres saignaient pas mal, mais son nez juste un peu. Chad pensait qu'il avait dû le faire saigner en tombant. Pas pire que n'importe quel petit accident de balançoire, pensa-t-il. Il en arrive des milliers tous les jours. Tu vois, dit-il, il va repasse là. Ce qu'il fit. Et quand elle lui demanda de la passer une troisième fois, puis une quatrième, puis une cinquième, il le fit également. Au bout d'un moment, il comprit que ce n'était plus pour voir l'enfant se relever qu'elle regardait, et lui non plus. C'était pour le voir tomber, et voir le coup de poing, que lui balançait la folle aux cheveux rouges et aux lunettes noires. Celle qui s'était avancée pour faire son sale boulot avant de décoller, comme si elle avait des ailes à ses baskets. Elle dit « Je crois que je lui ai cassé une dent. » Il haussa les épaules. « Bonne nouvelle pour la petite souris !» Après le cinquième visionnage, elle dit « Je veux m'enlever ce rouge des cheveux, je déteste !»« Ok, mais viens d'abord dans la chambre, discute pas, viens, c'est tout. » Elle lui répétait d'y aller plus fort, le cognant presque avec ses hanches qu'elle poussait contre lui, comme si elle voulait l'éjecter d'une ruade. Mais ce n'était pas ça qu'elle voulait. « Frappe-moi, dit-elle. » Il la frappa, il avait perdu toute rationalité. « Tu peux faire mieux que ça, frappe-moi, putain !» Il la frappa plus fort. Sa lèvre inférieure s'ouvrit, elle passa ses doigts dans le sang et jouit en même temps. « Montrez-la-moi, dit Winnie. » C'était le lendemain, elle était dans son bureau. « Montrez-moi d'abord l'argent. » Une réplique connue, mais elle n'arrivait pas à se rappeler où elle l'avait entendue. « Quand j'aurai vu la vidéo. » La caméra était toujours dans le sac en papier froissé. Elle la sortit ainsi que le câble. Elle le brancha à la petite télé qu'il avait dans son bureau. Elle appuya sur play et ils regardèrent la femme avec sa casquette des Mets assise sur un banc dans le parc. Derrière elle, quelques enfants jouaient. Derrière les enfants, des mamans parlaient de trucs de maman, enveloppements corporels, pièces de théâtre qu'elles avaient vues ou allaient voir, la nouvelle voiture, les prochaines vacances, bla bla bla. La femme se leva de son banc. La caméra zooma par à coup. L'image trembla un peu puis se stabilisa. C'est là que Nora appuya sur pause. C'était l'idée de Chad et elle était tombée d'accord avec lui. Elle faisait confiance à Winnie, mais jusqu'à un certain point seulement. « Je veux voir l'argent. » Winnie sortit une clé de la poche de son cardigan. Il s'en servit pour ouvrir le tiroir central de son bureau, la transférant dans sa main gauche lorsque la droite, partiellement paralysée, refusa de lui obéir. Ce n'était pas une enveloppe en fin de compte, c'était un colis Federal Express de taille moyenne. Elle regarda à l'intérieur et vit des liasses de billets de 100, chacune maintenue par un élastique. Il dit « Tout est là, plus un petit supplément. » « D'accord. Regardez ce que vous avez acheté. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur play. Je serai dans la cuisine. Vous ne voulez pas la regarder avec moi ?»« Non. » »« Nora, on dirait que vous avez eu un petit accident, vous aussi. » Il se tapota le coin de la bouche, du côté qu'il avait encore légèrement affaissé. Elle avait trouvé qu'il ressemblait à un mouton ? Comme c'était stupide de sa part. Quel manque de clairvoyance. Il ne ressemblait pas non plus à un loup, pas vraiment. Quelque part entre les deux. Un chien peut-être. Le genre de chien qui mord et part en courant. Je me suis cogné. Je vois. D'accord, je vais la regarder avec vous, dit-elle. Et elle s'assit. C'est elle qui appuya sur play. Ils visionnèrent la vidéo deux fois dans un silence absolu. Elle durait à peu près 30 secondes. Ce qui équivalait à environ 6 600 $ la seconde. Nora avait fait le calcul pendant qu'elle et Chad la regardaient. Après le deuxième visionnage, elle appuya sur stop. Elle lui montra comment éjecter la petite cassette. « Elle est à vous. Je dois rendre la caméra au type qui l'a prêtée à mon mari. » « Je comprends. » Il avait les yeux brillants. Il avait eu ce qu'il voulait. Apparemment, il en avait réellement eu pour son argent. Hallucinant. « Je demanderai à Madame Granger de m'en acheter une pour les prochains visionnages. Ou peut-être est-ce une course que vous voudrez bien faire ?»« Pas moi, non. J'en ai fini avec vous. » Ah, il n'avait pas l'air surpris. « Très bien. Mais si je puis me permettre une suggestion, vous devriez vous trouver un autre travail, pour que personne ne s'étonne lorsque vous commencerez à payer vos factures avec une rapidité inhabituelle. C'est seulement à votre bien-être que je pense, très cher. » J'en doute pas. Elle débrancha le câble et le rangea dans le sac en papier avec la caméra. Et je ne partirai pas non plus pour le Vermont trop rapidement. J'ai pas besoin de vos conseils. Je me sens sale et c'est à cause de vous. Je suppose que oui, mais vous ne vous ferez pas arrêter, jamais personne ne saura. Le côté droit de sa bouche était affaissé, le côté gauche relevé comme pour sourire. Le résultat était un S tortueux sous le bec qui lui servait de nez. Son élocution était parfaitement claire ce jour-là. Chose dont elle se souviendrait et à laquelle elle réfléchirait plus tard, comme si ce qu'il appelait le péché s'était révélé être une thérapie. Et puis Nora, est-ce toujours mal de se sentir sale? Elle ne vit absolument pas quoi répondre à ça, ce qui, supposa-t-elle, était une réponse en soi. « Si je demande, dit-il, c'est parce que la deuxième fois que vous avez passé la vidéo, c'est vous que j'ai regardé. » Elle empoigna le sac en papier avec la caméra de Charlie Green dedans et marcha vers la porte. « Bonne continuation, Winnie, et embauchez un vrai kiné en plus d'une infirmière la prochaine fois. Votre père vous a laissé suffisamment d'argent pour vous payer les deux et prenez soin de cette cassette pour notre bien à tous les deux. Vous n'êtes pas identifiable dessus, très cher, et même si vous l'étiez, qui s'en soucierait ? » Il haussa les épaules. Après tout, on n'y voit ni viol ni meurtre. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, pressée de partir, mais curieuse, encore curieuse. Winnie, comment allez-vous régler ça avec votre Dieu ? Combien de temps vous allez devoir prier ? Il ricana. Si un pécheur aussi scandaleux que Simon-Pierre a pu fonder l'Église catholique, j'ose espérer m'en tirer à bon compte. « Oui, mais est-ce que Simon-Pierre a gardé la vidéo pour pouvoir la regarder pendant les longues soirées d'hiver ?» Cela le réduisit enfin au silence et Nora sortit avant qu'il puisse retrouver sa voix. C'était une petite victoire, mais elle s'en saisit avidement. Une semaine plus tard, il téléphona chez elle et lui dit qu'elle était la bienvenue si elle voulait revenir, au moins jusqu'à ce qu'elle et Chad partent pour le Vermont. Il n'avait encore embauché personne pour la remplacer et s'il y avait la moindre chance qu'elle change d'avis, il n'en ferait rien. « Vous me manquez, Nora. » Elle ne dit rien. Il baissa la voix. « Nous pourrions regarder encore la cassette. Vous n'aimeriez pas ? Vous n'aimeriez pas la revoir, au moins une fois ?»« Non, » dit-elle, et elle raccrocha. Elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer du thé, quand elle fut prise d'un vertige. Elle s'assit dans le coin du salon et appuya sa tête contre ses genoux pliés. Elle attendit que le malaise passe, et il finit par passer. Elle trouva un emploi auprès de Madame Reston. Ce n'était que 20 heures par semaine, et le salaire n'avait rien à voir avec ce qu'elle faisait chez le révérend Winston, mais l'argent n'était plus la question, et le trajet n'était pas long, un étage à monter. Le mieux dans tout ça, c'est que Madame Reston, qui souffrait de diabète et de problèmes cardiaques mineurs, était un amour de tête de linotte. Quelquefois, cependant, surtout lors de ses interminables monologues à propos de son défunt mari, la main de Nora la démangeait de la gifler. Chad resta inscrit sur la liste des remplaçants, mais réduisit ses heures de travail. Tous les week-ends, il mettait à profit 6 de ses heures fraîchement libérées pour travailler sur « Vivre parmi les animaux », et les pages commencèrent à s'empiler. Une ou deux fois, il se demanda si ces pages étaient aussi bonnes, aussi vivantes, que celles qu'il avait écrites avant le jour de la caméra. Et il se dit que cette question lui était venue seulement parce qu'il avait une conception archaïque et erronée de la punition vissée dans le crâne, comme un grain de popcorn coincé entre les dents du fond. 12 jours après l'épisode dans le parc, quelqu'un frappa chez eux. Quand Nora ouvrit la porte, un policier attendait là. « Oui, monsieur l'agent ? Vous êtes bien Nora Callahan ?» Elle pensa calmement. « J'avouerai tout. » Et quand les autorités m'auront fait ce qu'elles ont à me faire, j'irai voir la maman de ce garçon. Je lui tendrai la joue et je dirai « Vas-y, maman, balance-moi ton meilleur crochet. Tu nous rendras un fier service à toutes les deux. » « Oui, c'est bien moi. » « Madame, je suis là à la demande de la section Walt Whitman de la bibliothèque municipale de Brooklyn. Vous avez un retard de presque 2 mois sur 4 livres, dont un de valeur. Un livre d'art, il me semble. Emprunt limité. » Elle le regarda d'un air hébété, puis éclata de rire. « Vous êtes un policier de bibliothèque ?» Il tenta de garder son sérieux, puis se mit à rire aussi. « Aujourd'hui, oui, faut croire. Vous avez les livres dont je vous parle ?»« Oui, je les avais complètement oubliés. Auriez-vous l'obligeance d'accompagner une jeune femme à la bibliothèque, monsieur l'agent ?» Elle consulta son badge. « Abramovitz ?»« Avec plaisir. Prenez juste votre chéquier. » « Ils prendront peut-être ma carte Visa, » dit-elle. Il sourit. « Probablement, oui, » dit-il. Ce soir-là, au lit, « Frappe-moi !» comme si elle était en train de disputer un match de boxe et pas de faire l'amour. Non. Comme elle le chevauchait, elle put facilement tendre le bras pour le gifler. Sa paume claqua contre la joue de Chad comme un coup de pistolet à air comprimé. « Frappe-moi, j'ai dit. Frappe !» Sans réfléchir, Chad la gifla en retour. Elle se mit à pleurer, mais il durcissait sous elle. « Bien. Maintenant, baise-moi. » Il la baisa. Dehors, une alarme de voiture se déclencha. En janvier, ils allèrent dans le Vermont, en train. C'était splendide, comme une carte postale. Ils visitèrent une maison qui leur plut à tous les deux, à une trentaine de kilomètres de Montpelier. C'était seulement la troisième qu'ils visitaient. L'agent immobilier s'appelait Jody Enders. Elle était charmante, mais elle n'arrêtait pas de regarder l'œil droit de Nora. Finalement, Nora lui dit avec un petit rire embarrassé, « J'ai glissé sur une plaque de verglas en montant dans un taxi. Vous auriez dû me voir la semaine dernière. On aurait dit une campagne contre les violences conjugales. » « Ça se voit à peine, » répondit Jody Enders. Puis, timidement, « Vous êtes très jolie. » Chad passa un bras autour des épaules de Nora. « Je trouve aussi. »« Que faites-vous dans la vie, monsieur Callahan ?»«
Je suis écrivain, » dit-il.
Ils payèrent un acompte pour la maison. Sur l'accord de prêt, Nora cocha « apport personnel ». Dans l'encadré « détail », elle écrivit simplement « économie ». Un jour de février, alors qu'ils étaient en plein déménagement, Chad alla à Manhattan voir un film à l'Angelica et dîner avec son agent. Abramovitz avait laissé sa carte à Nora. Elle l'appela. Il la rejoignit et ils baisèrent dans la chambre presque vide. C'était bien, mais ça aurait été mieux si elle avait pu le persuader de la frapper. Elle avait demandé, mais il avait refusé. « Quel genre de cinglé t'es, toi ? » demanda-t-il sur le ton de celui qui plaisante, mais pas tellement. « Je sais pas, » répondit Nora. « Je suis encore en train de le découvrir. » Leur départ pour le Vermont était prévu pour 29 février. La veille, qui aurait été le dernier jour du mois dans une année non bissextile, le téléphone sonna. C'était Madame Granger, la femme de ménage du révérend émérite Winston. Dès que Nora enregistra le ton feutré de sa correspondante, elle comprit la raison de son appel et sa première pensée fut « Qu'est-ce que t'as fait de la cassette, espèce d'enfoiré ?» L'avis de décès indiquera insuffisance rénale, dit Madame Granger de sa voix annonciatrice de mauvaises nouvelles, mais je suis allée dans sa salle de bain. Les flacons de médicaments étaient tous sortis et il manquait trop de cachets. Je crois qu'il s'est suicidé. Probablement pas, dit Nora. Elle avait pris sa voix d'infirmière la plus calme et la plus assurée. Il est plus vraisemblable qu'il se soit embrouillé dans les doses. Il se peut aussi qu'il ait eu une autre attaque, une petite. Vous croyez vraiment ? « Oh oui, absolument, » dit Nora. Et elle dut se retenir de demander à Madame Granger si elle n'avait pas vu une nouvelle caméra vidéo quelque part dans la maison, sûrement branchée à la télé de Winnie. Il aurait été insensé de poser une telle question, mais elle faillit quand même le faire. « C'est un tel soulagement, » dit Madame Granger. « Tant mieux, » dit Nora. Le soir même, au lit, leur dernière nuit à Brooklyn. « Arrête de t'inquiéter, » dit Chad. « Si quelqu'un trouve la cassette, ils ne la regarderont probablement pas, et s'ils la regardent, le risque qu'ils fassent le lien avec toi est quasi infinitésimal. Et puis, le gosse a déjà dû tout oublier, la mère aussi. La mère était là quand une tarée a agressé son fils avant de s'enfuir, répliqua Nora. Crois-moi, elle a pas oublié. D'accord, dit-il d'un ton équanime qui donna envie à Nora de lui envoyer son genou dans les couilles. Peut-être que je devrais aller aider Madame Granger à ranger la maison? Il la regarda comme si elle était folle. « Peut-être que j'ai envie d'être soupçonnée, » dit-elle. Elle lui adressa un léger sourire, son sourire aguicheur. Il la regarda, puis lui tourna le dos. « Arrête, Chad, » dit-elle, « fais pas ça. Allez !»« Non, » dit-il. « Quoi non ? Pourquoi ?»« Parce que je sais à quoi tu penses quand on le fait. » Elle le frappa, un bon coup sur la nuque. « Tu sais que dalle !» Il se retourna et leva le poing. « Fais pas ça, Nora !» « Vas-y, » dit-elle en lui présentant son visage, « tu sais que t'en as envie. » Il faillit le faire. Elle vit son poing se raidir, puis il abaissa la main et desserra le poing. « Non, plus de ça. » Elle ne dit rien mais pensa, « c'est ce que tu crois. » Nora resta éveillée, les yeux fixés sur le réveil. Jusqu'à 1h41, elle pensa, « notre couple est en danger. » Puis quand 1h42 s'afficha, elle pensa,
Non, c'est faux. Notre couple est mort. Mais il lui restait encore 7 mois à vivre.
Nora ne s'attendait pas à tourner un jour la page sur sa collaboration avec l'honorable révérend George Winston, mais alors qu'elle s'activait à donner forme à leur nouvelle maison, elle allait cultiver non pas un, mais 2 jardins, un de fleurs et un de légumes, elle pouvait passer des journées entières sans penser à lui. La violence au lit avait cessé, ou presque. Et puis, un jour d'avril, elle reçut une carte postale de lui. Ce fut un choc. La carte arriva dans une enveloppe des services postaux américains, car il ne restait pas la moindre place dessus pour griffonner une adresse de réexpédition. Elle avait été partout, de Brooklyn dans le Maine, en passant par les 2 Montpelier, dans l'Idaho et dans l'Indiana. Nora ne comprit pas comment elle n'était pas arrivée avant qu'il quitte New York, et compte tenu du périple qu'elle avait effectué, c'était un miracle qu'elle soit arrivée tout court. Elle était datée de la veille de la mort du révérend. Nora vérifia sa notice nécrologique sur Google, juste pour s'en assurer. « Peut-être qu'il y a du vrai dans Freud, finalement, » disait la carte. « Comment allez-vous ? » « Bien, » pensa Nora, « je vais bien. » Il y avait un poêle à bois dans la cuisine de leur maison. Elle froissa la carte postale et l'y jeta avec une allumette. Point final. Chad acheva Vivre parmi les animaux en juillet, écrivant les 50 dernières pages en 9 jours. Il envoya le manuscrit à son agent. S'ensuivit un échange de mails et de coups de téléphone. Selon Chad, Ringling semblait enthousiaste. Si c'était le cas, Nora pensait qu'il devait réserver le gros de son enthousiasme pour ses appels téléphoniques. Ce qu'elle avait décelé dans les 2 mails était au mieux un optimisme modéré. En août, à la demande de Ringling, Chad retravailla son manuscrit. Il ne s'épancha pas sur cette étape de l'écriture, signe que ça ne se passait pas particulièrement bien. Mais il s'y tint. Nora le remarqua à peine, elle était absorbée par son jardin. En septembre, Chad décida d'aller à New York, arpenter le bureau de Ringling pendant que l'homme téléphonerait aux 7 éditeurs auxquels le manuscrit avait été envoyé, dans l'espoir que certains exprimeraient le désir de rencontrer l'auteur. Nora envisagea de descendre dans un bar de Montpelier pour se trouver quelqu'un. Il pourrait aller dans un Motel 6, mais s'en abstint. Trop d'efforts pour un trop faible gain. À la place, elle travailla au jardin. Ce fut tout aussi bien. Chad rentra le soir même au lieu de passer la nuit à New York comme il l'avait prévu. Il était saoul. Il déclara aussi être content. Ils avaient décroché un contrat avec un bon éditeur. Il lui dit le nom de la maison d'édition. Elle n'en avait jamais entendu parler. « Combien ? » demanda-t-elle. « Ça n'a pas tellement d'importance, bébé. » Tellement donna tellement et l'appelait bébé seulement quand il était ivre. « Ils adorent le livre et c'est ça qui compte. » « Livre. » Elle réalisa que lorsque Chad était saoul, il parlait un peu comme Winnie les premiers mois après son attaque. « Combien ? » ?»« $50,000. Compte. » Elle rigola. « J'ai dû me faire autant avant de me lever du banc. » C'est ce que j'ai calculé la première fois qu'on a regardé. Elle ne vit pas le coup partir et ne le sentit pas vraiment arriver. Il y eut comme un gros clic dans sa tête et ce fut tout. Puis elle se retrouva allongée sur le sol de la cuisine à respirer par la bouche. Elle n'avait pas le choix, il lui avait cassé le nez. « Espèce de salope !» dit-il en se mettant à pleurer. Nora s'assit. La cuisine sembla décrire un grand cercle ivre autour d'elle avant de se stabiliser. Du sang gouttait sur le sol en linoléum. Elle était affairée, endolorie, euphorique, honteuse et prise d'une envie de rire. « Alors celui-là, je l'ai pas vu venir, » pensa-t-elle. « C'est ça, fais-moi porter le chapeau, » dit-elle. Elle avait la voix congestionnée, une voix de trompette bouchée. « Fais-moi porter le chapeau et puis mets-toi à chialer comme un bébé. » Il pencha la tête comme s'il n'avait pas bien entendu ou n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre et lui montra le poing. Elle leva son visage vers lui, son nez désormais dévié en première ligne. Une barbe de sang ornait son menton. « Vas-y, » dit-elle, « c'est la seule chose que tu sais à peu près faire. »« Avec combien d'hommes t'as couché depuis ce jour-là ? Dis-moi. »« Couché avec aucun, baisé avec 12 ? » Elle mentait. Il y avait seulement eu le flic et un électricien qui étaient venus un jour où Chad était en ville. « Frappe, Macduff !» Au lieu de frapper, il desserra le poing et laissa retomber sa main. « Le livre aurait été bien sans toi. » Il secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. « C'est pas tout à fait ça, mais tu vois ce que je veux dire. »« T'es saoul. »« je vais te quitter et en écrire un autre, un mieux.
Et moi, je suis le pape. Tu verras, dit-il aussi pleurnichard et puéril qu'un petit garçon venant de perdre une bagarre dans la cour de récré. Attends un peu et tu verras.
Tes sous, va te coucher. Espèce de salope toxique.
S'étant libéré de ça, il se traîna jusqu'au lit, la tête basse. Il marchait même comme Winnie après son attaque. Nora pensa aller aux urgences pour son nez, mais elle était trop fatiguée pour inventer une histoire qui aurait juste ce qu'il fallait de véracité. Au fond d'elle, l'infirmière, elle savait qu'une telle histoire n'existe pas. Il lirait à travers elle que son histoire soit bonne ou pas. Dans les situations de ce genre, le personnel des urgences sait toujours. Elle se fourra du coton dans les narines et prit deux Tylenol codéinés. Puis elle sortit et désherba son jardin jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour y voir. Quand elle rentra, Chad ronflait sur le lit. Il avait ôté sa chemise, mais gardé son pantalon. Elle trouva qu'il avait l'air d'un imbécile. Ça lui donna envie de pleurer, mais se retint. Il la quitta et retourna vivre à New York. Il lui envoyait parfois des mails et parfois elle y répondait. Il ne réclama pas sa part de l'argent restant, et c'était bien. Elle ne la lui aurait pas donnée. Elle avait travaillé pour le gagner, et maintenant c'était l'argent qui travaillait. Elle l'injectait petit à petit dans son compte en banque, remboursant le prêt de la maison. Dans ses mails, il disait qu'il avait repris les remplacements et qu'il écrivait le week-end. Elle le croyait pour les remplacements, mais pas pour l'écriture. Ses mails donnaient une impression de faiblesse et de fatigue, qui suggérait qu'en matière d'écriture, il ne devait peut-être plus lui rester grand-chose. De toute façon, elle avait toujours pensé qu'il n'écrirait qu'un seul livre. C'est elle qui s'occupa du divorce. Elle trouva tout ce dont elle avait besoin sur Internet. Il y avait des papiers qu'il devait signer, et il les signa. Il les renvoya sans y joindre de mots. L'été suivant, un bon été, elle travaillait à temps plein à l'hôpital du coin, et son jardin de fleurs était une splendeur. Elle était en train de flâner chez un bouquiniste quand elle tomba sur un livre qu'elle avait vu dans le bureau de Winnie. Le fondement de la morale. C'était un exemplaire assez abîmé, et elle put l'emporter pour $2. Il lui fallut le reste de l'été et presque tout l'automne pour le lire d'un bout à l'autre. Au final, elle fut déçue. Il contenait peu de choses, voire rien, qu'elle ne sut déjà. Pour James Sprouse.